J'aimerais qu'on reste vraiment dans la note de ce matin, en me réjouissant de ce que le Seigneur monte, se manifeste au milieu de nous. Il est présent. Si quelques-uns en doutent encore, je les invite vraiment à ouvrir leur cœur, ne pas le laisser fermer. Le Seigneur est là, il est présent au milieu de nous. Il veut faire du bien à son Église. Je suis encouragé par ce qu'on est en train de vivre. J'ai eu une nuit agitée, on va dire, en pensant à ce culte et à ce que je vais vous apporter ce matin. Parce que je pense que c'est une chose essentielle et qui malheureusement devient une difficulté dans les églises, au moins en Occident, je pense. Et le Seigneur veut nous parler, nous interpeller ce matin, alors que nous parlons depuis plusieurs dimanches du sacerdoce universel, à savoir que il n'y a pas une élite au milieu du peuple de Dieu qui est chargée de faire les tâches sérieuses et puis les autres qui suivent, qui regardent, mais que tous nous sommes appelés à être des sacrificateurs, tous des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Amen. Et je rappelle ce texte de l'Apocalypse qui fonde cette étude depuis plusieurs dimanches, Apocalypse chapitre 1, la deuxième partie, verset 5, verset 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Lors des deux dernières études, on avait parlé du fait que le sacerdoce, ça rime d'abord avec sacrifice. Qu'on ne peut pas compter, voir des choses différentes de ce qu'on voit au quotidien si on ne fait pas plus. Si on se donne pas plus, si on n'abandonne pas plus. Le sacerdoce rime avec le sacrifice. Les sacrificateurs du temps de Moïse étaient des personnes qui n'avaient pas d'horizon. Ils n'avaient pas d'ambition professionnelle. Ils n'achetaient pas des terrains, ils n'en avaient pas. Ils étaient focalisés sur le royaume de Dieu, sur le service de leur maître. Amen. Et nous sommes appelés, là c'était juste une partie du peuple qui a été choisie, aujourd'hui c'est tout le peuple qui doit avoir cette mentalité. Deuxième chose que nous avions vue la dernière fois, c'était que le sacerdoce rime avec le service. Le sacrificateur, il est au service du peuple. Et nous sommes au service de ce pays de France. À leur service pour qu'ils puissent venir et connaître le salut. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? C'est tellement important. Nous sommes désignés par le Seigneur pour servir notre pays, pour l'amener à l'Évangile. De quelque manière que ce soit, de la manière dont Dieu nous appellera à le faire. Et en tous les cas, premièrement, auprès de ceux que Dieu met sur notre route. Nos familles, nos collègues de travail, nos voisins, tous ceux que nous fréquentons peut-être dans un club de loisirs ou je ne sais où, le Seigneur nous appelle à être des serviteurs pour eux. Est-ce que vous vous rappelez de la dernière image de l'étude sur le service? C'était quoi le texte de base, vous vous rappelez? Qui montrait qu'on doit être serviteur? Qui nous a montré l'exemple? Jésus, en faisant quoi? En lavant les pieds de ses disciples. Et on avait terminé cette étude en disant, cette position pour laver les pieds de quelqu'un, il faut s'abaisser devant lui, se mettre à genoux. Et cette position, c'est la position de Jésus qui intercède en notre faveur. Amen. Vous connaissez les textes où il est dit que Jésus intercède pour nous auprès du Père? Quelle grâce! Quelle grâce! Aucun de nous serait là sans l'intercession de Jésus. Christ, c'est le souverain sacrificateur. Et il nous invite à la prière. Le sacerdoce rime avec prière, mes frères et sœurs. Et c'est de la prière dont nous allons parler ce matin. Et je vous assure que pour moi, depuis longtemps, je n'ai pas ressenti une telle pression avant de prêcher. Et je crois vraiment que nous allons parler vraiment du nerf de la guerre. et que si l'Église ne se lève pas, nous avons proclamé cette année comme l'année de la moisson. Mais est-ce que vous avez commencé la moisson? Vous savez par quoi ça commence, la moisson? Par la prière. Est-ce que depuis, vous en faites un sujet régulier dans vos cultes personnels? Est-ce que depuis, vous avez décidé de venir le mardi soir régulièrement pour prier pour cette nation? C'est ça qui va changer le cours des choses. Et uniquement cela. C'est une question d'obéissance à la parole et non pas à un pasteur ou à un système d'église. Comme je l'entends souvent, vous savez, c'est facile maintenant de s'écarter du chemin de Dieu en trouvant des excuses. Mais le Seigneur a déclaré que sa maison sera appelée une maison de prière. Ce n'est pas moi qui le déclare, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Est-ce que l'église de Colomiers est une maison de prière? Où les chrétiens se disputent la place pour venir et prier ensemble, comme nous allons le voir. Christ est le souverain sacrificateur. Il nous montre l'exemple. Il intercède. Romains chapitre 8, verset 34. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. La première partie de ce message va s'arrêter sur la nécessité de prier. Pourquoi ? Prier pourquoi ? Prier pour qui ? Nous prions pour le salut des âmes. Nous prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui sont perdus. C'est notre priorité. C'est ce qui doit nous hanter à chaque fois qu'on se met à genoux. Bien sûr, d'abord notre propre état. On en parlait avec les ados hier. La première prière qu'on fait au Seigneur, c'est celle de la repentance. On a besoin d'être pardonné de nos fautes et de nos péchés. Mais notre deuxième élan, c'est d'avoir ce cœur pour ces foules sans berger qui ont besoin. Et si Jésus est bien sûr l'intercesseur suprême, intercéder, ça veut dire se mettre entre la colère de Dieu et la personne qui doit subir la colère de Dieu. C'est ce que Jésus a fait en se mettant sur la croix et en mourant à notre place. La colère de Dieu, il l'a pris lui pour que nous, on ne la prenne pas. Mais nous sommes sacrificateurs. Et donc nous aussi, bien sûr que nous, ce n'est pas au nom de notre sacrifice personnel qu'on le fait. C'est au nom du sacrifice de Jésus qu'on le fait. Mais on se met aussi, nous, par nos prières, entre la colère de Dieu et entre les pécheurs. On n'est pas du genre de certains qu'on voit dans les Écritures, ils disent « fais tomber le feu sur eux, à ces vilains pécheurs ». Nous, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et d'ailleurs, c'est ce que dira Jésus. Vous ne connaissez pas l'Esprit qui habite. Nous voulons nous mettre entre la colère de Dieu et notre pays. Vous êtes d'accord avec ça? Dans le livre du Lévitique, au chapitre 1, verset 4, il est parlé... Alors, ce serait intéressant d'être plus détaillé, mais je n'en ai pas le temps ce matin, mais... C'est un livre tellement riche que celui du Lévitique, il est très austère au premier abord, mais très intéressant quand on l'étudie, parce que, en fait, ce livre a été écrit pour nous expliquer comment communiquer avec Dieu. Comment on fait pour avoir une relation avec Dieu. Alors bien sûr, c'est à transposer dans la Nouvelle Alliance, mais il y a beaucoup de leçons qu'on doit tirer. Et là, il est dit, il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, c'est-à-dire celui qui amène la victime, l'offrande, qui sera agréé de l'Éternel pour servir d'expiation, ça veut dire pour le pardon des péchés. Et qui récupère ensuite l'animal, le fait brûler, d'abord verse le sang sur l'Holocauste et ensuite le fait brûler, c'est le sacrificateur. Dans Lévitique chapitre 1, verset 8, la deuxième partie, en parlant de ce sacrifice pour l'expiation des péchés, il est dit que c'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui était intéressant dans les offrandes, c'est qu'il y avait toujours à la fin une odeur, quelque chose qui monte vers Dieu. On faisait brûler aussi de l'encens, qui est plus le symbole aujourd'hui de la louange. Cette odeur qui monte vers l'Éternel, et qui lui est agréable, vous savez ce que c'est? C'est la prière. Chaque fois que vous priez, il monte une odeur vers le ciel. qui est tellement agréable au Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Chaque fois que l'on prie, je pense qu'il est monté une odeur agréable ce matin vers le ciel. Par la grâce de Dieu, pas parce qu'on est des chrétiens spirituels, mais Dieu nous a fait grâce ce matin. Dieu nous a fait grâce en nous visitant par son esprit. Amen. Le sacrificateur, c'est donc celui qui prie pour que la colère de Dieu se calme envers le pécheur qui a amené l'Holocauste. Donc en fait, nous devons amener les gens. L'image d'amener l'Holocauste, c'est l'image de venir à la croix, vers le sacrifice. Le sacrifice, il n'y a plus besoin d'en faire, hein, vous êtes au courant. Jésus est mort une fois pour toutes et son sang a remplacé le sang des boucs et des béliers et les veaux, les taureaux, tout ce qui était offert. Tout ça s'est remplacé et d'une manière parfaite. Tous sacrificateurs signifie que nous devons prier pour calmer la colère de Dieu envers le pécheur. Dans Matthieu chapitre 9, versets 36-38, j'ai fait allusion tout à l'heure, nous lisons ceci. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle. Le terme « ému de compassion » dans le grec, c'est quelque chose qui vous gênerait si on le traduisait littéralement. Parce que ça parle des entrailles, de tous les organes qu'on a à l'intérieur. Et c'est comme si les entrailles sortaient de nous et tombaient par terre tellement le fait de voir un pécheur nous attriste et nous touche. Pas dans le sens du jugement, hein, dans le sens de la compassion, ému de compassion. Pour cette foule, parce qu'elle était languissante et abattue. Vous savez que quand on vit dans le péché, c'est dur, hein. Ça crée une fatigue, ça crée une oppression sur les gens. Eux, ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est parce qu'ils sont loin de Dieu. Ils sont oppressés, fatigués. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit, Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et là, devant le problème, qu'est-ce que Jésus dit ? Organisez des réunions, faites des distributions de prospectus. Hein, c'est ça qu'il dit ? Il dit priez, priez, priez. La première chose que nous devons faire, c'est prier. Prier que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Prier pour que le Seigneur m'envoie à moi premièrement. Prier pour que le Seigneur lève une armée à son service, pour que de nombreux pécheurs puissent trouver le chemin du salut. Amen. On peut le souhaiter, on peut dire, ouais, on veut le réveil, puis faire des déclarations. Ça ne sert à rien si on ne prie pas. Devant le besoin de salut, devant la moisson, je vous rappelle, année 2023, année de la moisson, Jésus nous donne non pas une recommandation, mais un impératif. Priez, priez. Le sacrificateur, c'est un ouvrier pour la moisson. C'est ça que le Seigneur veut envoyer, des sacrificateurs, des ouvriers pour la moisson. Amen. Jésus a transmis cela à ses disciples, si bien que Pierre et Jean, lorsqu'ils reviennent de leur entretien avec les principaux sacrificateurs, voici ce qu'ils vont faire. Voilà quel est leur réflexe. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait, nous, si on s'était retrouvé devant un tribunal et on nous a dit « si jamais vous parlez encore de Jésus, vous allez en prison ». Je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Regardez ce qu'eux, ils ont fait. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils sont allés vers les frères et sœurs. Et ils ont raconté tout ce qui s'est passé, ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, lorsque leurs frères et sœurs les eurent entendus, qu'est-ce qu'ils font ? Ils élèvent tous la voix vers Dieu ensemble et ils prient. Et ils prient, amen.
C'est ça l'Église du Seigneur. C'est quand les chrétiens se réunissent et devant un problème, ils prient ensemble. Pas ils discutent pendant des heures. Pas ils font un débat contradictoire, etc. Ils prient. Ils prient, amen. Et puis un peu plus loin, au verset 29, voici ce qu'ils disent. Alors ils rappellent, entre-temps, ils rappellent la grandeur de Dieu, tout ce qu'il a déjà fait. Ils se remémorent la puissance de Dieu, ça aide dans la prière, ça. Mais après, ils vont dire quelque chose de formidable. Au lieu de dire, Seigneur, voici leurs menaces, protège-nous, détruis nos ennemis. Peut-être ce qu'on aurait fait, nous. Hein. Eux, ils disent maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alors qu'on leur a dit, si jamais vous parlez encore, vous allez en prison. Ben, eux, ils disent, on veut encore plus d'assurance pour annoncer l'évangile. Amen. En étendant aussi la main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Et oui, c'est quand on prie que l'Église se lève pour intercéder, qu'on voit les prodiges et les miracles quand chacun est chez soi devant sa télévision. Il n'y a pas de miracle. Télévision ou autre chose. Quand ils eurent prié, regardez ce que la prière déclenche. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pourtant, ils avaient déjà été. Hein. La plupart qui étaient là, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Donc ils pourraient dire, oh, sérieux, c'est bon. Non, non. Ils ont reçu une nouvelle dose. Et on a besoin de recevoir une nouvelle dose. Si tu es en train de dire, ouais, moi je suis baptisé du Saint-Esprit en 1960. Ça fait un peu loin tout ça. Mais même il y a 15 jours, hein, tu as besoin d'être renouvelé, mon frère, ma soeur. Moi, des moments comme ce matin, je les bénis. Je les bénis parce que le Seigneur me renouvelle. Hier à Lille Journal, le Seigneur m'a renouvelé aussi. Amen. Et à chaque fois, on est renouvelé. Et on repart avec des forces nouvelles. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé de prier ensemble. Amen. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est ce que nous voulons. Et regardez les conséquences. Actes chapitre 5, versets 12 et 14. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils ont prié. Et le résultat est là. Ils se tenaient tous ensemble, au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Voilà la mission de l'Église. Prier pour envoyer des ouvriers et d'abord prier pour soi, pour annoncer la parole avec plus d'assurance. Prier pour qu'il y ait prodiges et miracles. Prier, prier, prier. Et qu'est-ce qu'on voit ? Des hommes, des femmes se convertissent de plus en plus. Amen. Lorsque j'étais pas encore pasteur, mais responsable jeunesse sur Albi, il y avait un pasteur de passage qui était là et il nous avait rendu un témoignage. Il avait visité une église à Kiev et il y avait dans cette église 600 jeunes. 600 jeunes. Et vous savez comment il y a eu le réveil ? À partir du moment où le responsable de la jeunesse a décidé tous les samedis après-midi de 14h à 18h de prier. Tous les samedis après-midi, tous les jeunes qui étaient dans l'église, je ne sais pas combien ils étaient au départ, ils n'étaient pas 600, ils ont décidé tous les samedis après-midi de prier. Ils avaient fait des listes avec les noms de tous leurs copains, leurs familles, tous les gens qui voulaient voir se convertir. Et ils les affichaient et ils priaient pendant 4 heures. 600 jeunes. Moi, ça m'avait touché. Et donc, j'avais pris mes responsables du groupe de jeunes qui étaient avec moi. Je leur ai dit, tous les samedis, maintenant, on va jeûner et prier. Alors, une heure. On est en France. Mais on a quand même fait ça, tous les samedis, pendant une heure. Au début, on était 4-5. Et puis, on a commencé à être 15, 20. À jeûner et prier. On avait un groupe de jeunes entre 15 et 20 personnes. Suite à cela, rapidement, on s'est retrouvé à 50 jeunes. Alors, c'est un peu moins bien qu'à Kiev, mais c'était un réveil puissant qu'on a vécu. On voyait des jeunes de 13 ans qui prophétisaient pendant nos réunions. Quand on prie, je me souviens aussi d'un camp d'ados où pendant tout le camp, on prêchait la parole et le groupe d'ados était dur, il était dur. On prêchait la parole et on sentait que ça répondait pas. Et le dernier jour où je devais prêcher, j'ai dit aux animateurs, j'en peux plus, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on s'est dit, vous savez, il y a un avantage en camp d'ados, c'est quand les ados se réveillent, ils sont calmes. Comme en principe, ils ont du mal à dormir le soir, quand on les réveille le matin, ils sont... Donc on se dit, c'est pas le moment où ils vont faire les pires bêtises, ils sont calmes. Donc pendant le petit déjeuner, on a juste dit à un ou deux animateurs, vous jetez un œil sur les ados quand ils viennent déjeuner. Et nous, on est allés se retirer dans une pièce. Et au lieu de déjeuner, on a prié. On a prié, on a pleuré. Je vous assure, le Saint-Esprit nous a touchés au point où on pleurait comme des gamins en disant, Seigneur, sauve-les, sauve-les. À la réunion qui a suivi, sur 27 ados, 24 ont donné leur cœur au Seigneur. Amen. La prière, mes frères et sœurs, la prière, ça déclenche des choses dans le royaume de Dieu. Le combat, il n'est pas charnel, il est spirituel. Donc si on y va avec nos armes, hein, en disant on va faire ci, on va organiser ça, on va faire ça, vous pouvez faire n'importe quelle organisation, il n'y a aucune organisation qui est mauvaise ou qui est bonne, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on soit dans la prière. Et on a besoin, moi j'ai besoin, je suis interpellé le premier, parce que je vous dis, j'ai besoin de remettre de l'ordre dans ma vie pour que la prière soit la priorité. Quelqu'un a écrit, si on comprenait la puissance de la prière, chaque fois qu'on n'a rien à faire, on prierait. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 18 à 20, il est dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour les uns pour les autres aussi. Hein. Priez pour moi, dit Paul, afin que me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul, il est en prison à cause du fait qu'il annonce l'Évangile et comme l'autre bande dont on a parlé dans les Actes des Apôtres, ben lui, il continue de demander qu'il puisse annoncer la parole avec assurance. Il ne s'arrêtera pas. Parce qu'il sait que c'est sa mission en tant que sacrificateur. Le deuxième point que je veux voir avec vous, je vais essayer d'accélérer un peu, prière individuelle, prière collective. J'aimerais qu'on voit ce que dit la parole là-dessus, parce que j'entends aussi des choses. Vous savez, l'effet de balancier, c'est classique en France. Je me souviens d'une époque où si quelqu'un manquait une réunion de prière, il était bon à aller en enfer. C'était... Et aujourd'hui, si on encourage les gens à venir aux réunions de prière, on a l'impression qu'on fait quelque chose de mal et qu'on culpabilise les gens. Vous voyez l'effet de balancier. Or, la Bible, si elle met en premier lieu le culte personnel, et ça... J'ai toujours prêché ça, et je n'ai jamais prêché autre chose à Colomiers, que l'importance premièrement du culte personnel, c'est pas la peine de venir à une réunion de prière fanfaronner si vous vivez rien avec Dieu, hein, ça c'est sûr. Mais quand on vit quelque chose avec Dieu, on vient le vivre avec ses frères et sœurs. La prière individuelle, Matthieu 6:6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Et ça, vous en êtes tous convaincus, je l'espère. J'espère que vous avez ce temps d'intimité les uns les autres avec le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, remettez de l'ordre vite, faites-le vite. Vous ne pouvez pas survivre sans ça. C'est l'image du cep et du sarment que Jésus donne. Si le sarment n'est pas attaché au cep, il meurt. C'est juste une loi naturelle. Et si on n'est pas attaché à Christ, on meurt spirituellement. Mais Jésus dit aussi, dans Matthieu 18, 19, 20, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il y a un moment où on prie seul et il y a un moment où on prie ensemble. Et l'un n'exclut pas l'autre. On est d'accord ou pas? On veut obéir à la parole ou pas? Donc il est nécessaire, mes frères et sœurs, qu'on prie ensemble. À Gethsémané, Jésus l'a fait les deux. Il a eu un temps où il a dit à trois des disciples de venir avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Et à un moment donné, il s'est avancé, il a prié tout seul. Dans Actes chapitre 1, verset 14, vous savez, la Pentecôte, elle vient comment, la Pentecôte? Parce que des hommes ont décidé de se réunir et de prier. Elle n'est pas venue parce qu'il y a un qui a une idée géniale. Ouais, on va faire, un nouveau truc dans les nouvelles communications, je ne sais pas quoi. Non. Un truc tout à fait classique. On va aller, parce que c'est Jésus qui leur a recommandé, on va aller, on va se trouver un endroit, une chambre haute, et on va prier, on va se tenir devant le Seigneur. Ça dure 10 jours le truc. 10 jours où ils cherchent le Seigneur, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Et il nous est dit qu'ils étaient 120. Et puis, le résultat, eh bien, c'est la Pentecôte. Le feu va descendre et tous sont baptisés du Saint-Esprit. Et il va y avoir des choses miraculeuses qui vont convaincre les gens qui sont venus pour la fête de Pentecôte à Jérusalem. Et dans Actes 2, 42, il nous est dit, après cela, il ne nous est pas dit, « Ah ben super, on a vécu un super moment, on va penser à ce moment, ça va nous donner des forces. » Non, il est dit, il persévérait dans 4 choses, vous connaissez ce texte, c'est des 4 piliers de l'Église, l'enseignement des apôtres, c'est où? C'est à l'Église. C'est pas sur YouTube. Hein. Vous m'entendez? L'enseignement des apôtres, c'est à l'Église, c'est pas sur YouTube. Sur YouTube, il y a des gars qui parlent, vous ne savez pas qui sont ces gars-là. Faites très attention. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais le Seigneur vous a placé dans une église et il a donné les ministères dans votre église et c'est eux qu'il faut que vous écoutiez. Et je ne suis pas le seul à prêcher, donc je ne prêche pas pour moi particulièrement. Ensuite, dans la communion fraternelle, il y en a qui m'expliquent qu'ils vivent la communion fraternelle sans avoir une église. Et je veux qu'ils m'expliquent comment ils font. Ensuite, dans la fraction du pain, on va remettre, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, à partir de la semaine prochaine, on redistribue la Sainte-Seine. Ça y est, j'ai une liste de personnes, on va pouvoir s'organiser et le faire. Voilà. Mais c'est un moment important aussi de la communion. C'est très important ce moment-là. Et puis, il persévérait dans... Ah, vous avez du mal à le dire. Hein. Dans les... Ouais, ça dépeint. Ça dépend où en est l'église de Colomiers. Qui est convaincu que nous devons nous réunir pour prier ensemble? Vous ne répondez pas parce que vous vous sentez coincé. Mais moi, je ne veux pas vous coincer. Moi, je vous assure que l'Esprit de Dieu me presse. L'Esprit de Dieu me presse. Parce que si on ne fait pas ça, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas le réveil qu'on attend. Il n'y aura pas ces âmes qui vont se convertir en grand nombre. On va se contenter de 5-6 baptêmes par an? C'est la moyenne depuis que je suis à Colomiers. Moi, je ne suis pas satisfait du tout de ça. Je ne suis pas satisfait du tout. Je veux plus. Et je sais qu'il faut que je change, moi. Et je veux m'y engager ce matin. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, nous dit Actes 2, 46, 47. Ils étaient tous ensemble au temple. Ils aimaient se réunir. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils faisaient aussi des choses dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quand on lit les Actes des Apôtres, on voit qu'après la Pentecôte, il y a eu 3000 âmes qui sont converties, puis un peu plus loin, on s'aperçoit qu'ils sont 5000 d'un seul coup. Ça fait qu'ils ont presque doublé en quelques jours. C'est ça qu'on veut vivre, mes frères et sœurs. On doit le vivre ensemble. Ensemble. Amen. Ou sinon, on prend des pages de nos Bibles et on les enlève. Si on dit, moi, prier tout seul, ça me suffit, je n'ai pas besoin de prier avec les frères et sœurs, ben, je vous invite à arracher beaucoup de pages. Je ne vais pas vous lire tous les versets dans les épîtres de Paul, notamment, où nous sommes encouragés à prier ensemble. À nous réunir pour prier ensemble. Le diable va vous trouver des bonnes excuses pour ne pas venir prier le mardi soir. Il va vous en donner plein et vous allez repartir en étant certain que vous avez une bonne excuse. Mais il n'y a pas d'excuse. Il n'y a que des cas de force majeure. Sinon, c'est la prière. Vous avez des enfants ? Ben un coup monsieur vient, un coup madame vient. Vous êtes seul avec les enfants, vous venez avec eux pendant la première demi-heure et vous repartez. Enfin, il y a plein de possibilités. On peut trouver des solutions, toujours. Moi, je bénis Dieu pour les enfants. Les enfants, ils aiment venir à l'église. Ils aiment venir à l'église, les enfants. Des fois, il y a des parents qui me disent, c'est mes enfants qui me... Dans le psaume 133, verset 1 à 3, vous le connaissez ? Les sacrificateurs, ils servaient où ? Ils servaient où, les sacrificateurs ? Chacun chez soi ? Mais ils étaient tous au temple. Et voici ce qu'il est dit, cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On peut rajouter les sœurs aussi. Hein. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. La vie pour l'éternité, on l'a vécu ce matin. Tous ensemble réunis, le Seigneur a envoyé la bénédiction. Amen. Alléluia. Et vous lirez les psaumes 134, 135 où il est dit que ceux qui se tiennent dans la maison de l'Éternel pour servir sont bénis. En conclusion, je voudrais juste vous parler de l'église d'Éphèse. Dans Actes chapitre 20, verset 36, il est parlé de ce moment où Paul se dirige vers Jérusalem et il passe pas loin d'Éphèse et il va convoquer les anciens d'Éphèse. Et vous savez ce qu'ils vont faire ? Là, au bord du rivage, là où ils se rencontrent, ils vont faire une réunion de prière improvisée, ils vont prier ensemble. Les anciens d'Éphèse, ils aimaient prier. Ils ont prié pour Paul. Et Paul, il a été gardé par le Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 16, regardez ce que dit Paul de cette église. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Paul se réjouit de la foi des Éphésiens. Ils ont une foi puissante. Et puis, on entend reparler de l'église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 3. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Moi, l'église d'Éphèse ont dû dire oui. Mais juste après, le Saint-Esprit dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Écoutez bien cela, mes frères et sœurs. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. J'ai du mal à lire la suite, mais je pense que c'est la Bible. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je voudrais représenter l'église de Colomiers comme un chandelier ce matin, qui est là comme une lumière qui brille au milieu de cette ville, que Dieu a placée et que Dieu ne veut pas déplacer. Mais Dieu attend de nous que nous revenions à notre premier amour. Essaye de te rappeler les premiers temps de ta conversion, si c'était difficile pour toi de prier ou de venir à l'église pour prier. Essaye de faire un retour en arrière. Ton premier amour, tes premiers moments où tu as découvert combien Dieu est bon, que tu étais prêt à tout laisser pour lui, etc. Et puis au fil des années, tout ça, ça s'est estompé. Ça s'est fatigué. Et le Seigneur, en interpellant son église ce matin, comme il l'a fait pour l'église d'Éphèse, il n'est pas en train de nous assassiner ce matin et nous dire qu'on est des bons à rien. Il y a des compliments qui ont été faits avant à l'église d'Éphèse. Et je sais que le Seigneur pourrait faire des compliments à l'église de Colomiers. Et beaucoup de compliments. Et je le dis sincèrement. Il y a tellement de choses qui me réjouissent en pensant à vous et à cette église. Tellement de choses qui me réjouissent. Mais je ne peux pas faire autrement que vous communiquer la pensée du Seigneur ce matin. Nous avons besoin de revenir à la prière que nous avons délaissée. Des personnes que j'ai vues fidèles ici le mardi soir, je ne les vois plus. Je ne sais pas ce qui a arrêté les uns les autres dans leur route, mais je crois que le Seigneur nous rappelle. Il faudrait que cette église soit aussi pleine le mardi que le dimanche. Et alors nous allons voir la gloire de Dieu. J'en suis convaincu, mes frères et sœurs. C'est la clé. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Venons prier ensemble. On ne va pas faire un registre avec les absents. Venez régulièrement, chaque fois que vous pouvez. S'il y a un mardi soir, vous ne pouvez pas être là. Mais on n'est pas en train de faire les comptes. Mais venez régulièrement, on a besoin de vous. Les ados, les jeunes de cette église ont besoin de vous entendre prier et de pleurer sur eux, ici, dans ce lieu. Amen. Les perdus autour ont besoin qu'on vienne ici pleurer et crier au Seigneur pour eux. Amen. Alléluia, c'est l'année de la moisson. Moi, je veux la voir, la moisson. Et je ne veux pas passer à côté. Et je veux être là quand le Seigneur me demande d'être là. Et je ne suis pas là parce que je suis le pasteur. Je suis là parce que je sais que c'est une nécessité. Et si je pouvais faire plus encore de réunions de prière, j'en ferais plus. Mais je sais que c'est compliqué pour tout le monde. Mais au moins une fois par semaine, mes frères et sœurs. Une fois par semaine. Se réunir tous ensemble, unis. Vous savez que ça va nous unir en plus. Ça va créer quelque chose entre nous. Amen. On va prier ensemble quelques instants. Je vous invite à fermer les yeux. Vous vous rappelez cette parole de Jésus qui dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. » Et le commandement du Seigneur, il nous est rappelé ce matin. Nous devons être des hommes, des femmes de prière. Je ne veux surtout pas que quelqu'un qui est vraiment dans l'impossibilité de venir le mardi soir se sente mal par rapport à ce que je dis. Je comprends tout à fait que des personnes ne puissent pas être là le mardi soir. Et je ne taxe pas les gens de pas spirituels parce qu'ils sont là le mardi soir ou pas là. Loin de moi cette pensée. Mais je sais que si le Seigneur m'a mis à cœur cette prédication, ce message, c'est parce que certains ont besoin de l'entendre. Et si toi tu es concerné, alors ne ferme pas ton cœur. Ne crois pas que tu te fais tirer les oreilles. Ne crois pas que ceci, que cela. Ne te laisse pas prendre par le diable. Écoute la voix du Seigneur qui te dit « Prie, prie, d'abord dans ta chambre, dans ton lieu secret, remets de l'ordre là-dedans, rétablis le lieu secret, rétablis le lieu secret, il en va de ta survie spirituelle, mon frère, ma sœur, rétablis le lieu secret dans ta vie. » Et une fois que tu as fait ça, viens et prie avec tes frères et sœurs. Prie avec tes frères et sœurs pour le salut des âmes. Prie avec tes frères et sœurs pour ceux qui souffrent dans l'église, pour ceux qui sont malades, pour qu'on puisse voir des prodiges et des miracles qu'on ne voit pas suffisamment. À l'heure où je vous parle, des frères et sœurs ne sont pas là ce matin parce qu'ils ne peuvent pas être là à cause de leur souffrance, de leur maladie. Et moi, je veux crier à Dieu pour qu'il n'en soit pas ainsi. J'aimerais inviter ceux qui sont interpellés ce matin à se lever à leur place. On va prier ensemble. Je voudrais vraiment que le Saint-Esprit puisse toucher, comme il l'a fait tout à l'heure. Il a déjà commencé son œuvre et je crois qu'il peut continuer son œuvre maintenant. Qui veut se lever maintenant et dire « Moi, je veux m'engager à prier pour les perdus. Je veux m'engager, peut-être chacun c'est personnel, certains se lèvent pour rétablir leur culte personnel. Dire « Seigneur, je veux mettre de l'ordre dans ma vie, dans mon emploi du temps. Ça suffit, Seigneur, je me laisse manger, je me laisse prendre et je te mets pas à la place où tu devrais être. Commençons par se lever pour ça. » Et puis, pour ceux qui sont interpellés parce qu'ils ont délaissé la prière communautaire, bien levez-vous à votre place aussi et engagez-vous en vous levant. Vous dites « Seigneur, je veux que ça change. Je veux pas que ça change pour faire plaisir au pasteur. Je veux pas que ça change pour dire « Ah, on est une église, il y a du monde à la réunion de prière. » Je veux que ça change parce que je veux voir les perdus se convertir. Je veux voir des miracles, des prodiges. Je veux parler de toi avec plus d'assurance, Seigneur. Je veux vivre ça. Et je sais, j'ai entendu ce matin que ta parole a dit qu'on doit tous se mettre ensemble pour demander ces choses au Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, je laisse maintenant cette parole à l'action de ton Saint-Esprit dans les vies de chacun. Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé et maintenant je te laisse faire ton œuvre dans le cœur des uns et des autres. Toi, tu sais toutes choses, Seigneur. J'ai à juger de rien, mais toi, tu sais toutes choses. Et pour tous ceux qui ont besoin de réagir par ce message, je prie que leur cœur soit une bonne terre en ce moment. Soit une bonne terre pour recevoir. Oh, nous chassons au nom de Jésus les raisonnements. Chassons au nom de Jésus le diable, l'ennemi, qui veut nous empêcher de mettre en pratique tes commandements. Seigneur, au nom de Jésus, touche, bénis les cœurs maintenant. Élève une armée d'intercesseurs, de sacrificateurs au milieu de nous pour la gloire de ton nom. Amen, amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Que Dieu vous aide, mes frères et sœurs. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Prions les uns pour les autres pour que le Seigneur nous aide. C'est difficile pour tout le monde de maintenir le cap. C'est difficile pour tout le monde. Mais le Seigneur, dans sa grâce, nous a interpellés ce matin.